conférence qu'on a eue précédemment avec l'aumônerie de la santé. Donc c'était des conférences un peu pas très joyeuses sur des thèmes, pas très joyeux. Et donc on cherchait comment avoir des conférences plus joyeuses, voilà, qui parlaient quand même de foi, etc. Et donc c'est Ludivine qui a eu l'idée en parlant d'Isabelle. Et donc il se trouvait que je connaissais aussi Isabelle personnellement. Et donc on s'est mis en lien et au fur et à mesure on a organisé cette rencontre, témoignage. Voilà. Donc, je te laisse te présenter.
D'accord. Bonsoir à tous, à ceux que j'ai pas encore, avec lesquels je n'ai pas encore pu échanger. Je m'appelle Isabelle, j'ai 32 ans. J'ai été consacrée dans l'ordre des Vierges consacrées il y a un petit peu plus d'un an par Monseigneur Aupetit. Et j'enseigne c'est ma cinquième année en éducation prioritaire à Argenteuil. Voilà, juste après mon année de stage, j'ai été envoyée là-bas comme professeur de lettres, professeur agrégé de lettres modernes. Et j'enseigne donc dans un collège, dans ceux qu'on imagine, les banlieues terribles, voilà. Donc je vais vous présenter en quelques mots mon parcours, un petit peu ce que je vis au quotidien, et puis après ce sera un temps d'échange pendant lequel vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez, voilà. Alors rapidement pour mon chemin qui m'a fait venir jusque là, je ne viens pas du tout d'une famille pratiquante pour ma part. Dans ma famille on est baptisé, on va au caté, mais voilà, pas de pratique religieuse. En revanche, mes parents m'ont inscrite au caté et on m'a proposé de servir la messe. Pour moi, ça a été mon point d'ancrage dans la foi. Et c'est comme ça que je suis devenue, tout simplement, j'ai grandi dans la foi, j'ai découvert que Jésus se rendait présent dans l'Eucharistie. Pour moi, ça a été vraiment très marquant et c'est là où je me suis engagée comme responsable d'un groupe au fur et à mesure des années. J'ai continué aussi après le caté l'aumônerie, enfin bon, j'ai suivi un parcours de foi. J'étais devenue une jeune pratiquante, engagée. Mais côté vocation, c'était plutôt loin de moi. Moi, je pensais plutôt me marier, voilà, c'était un truc trop lointain, et voilà. Dans mon chemin de vie, il y a une expérience spirituelle extrêmement forte, alors que j'avais 20 ans, en abbaye, lors d'un sacrement de réconciliation, où j'ai compris que Dieu m'aimait profondément. Donc c'était à Saint-Benoît-sur-Loire, si vous connaissez peut-être, chez des bénédictins, et j'admets que cette rencontre avec l'amour de Dieu a vraiment chamboulé ma vie. Je ne me suis pas dit tout de suite, je vais être consacrée, je vais devenir vierge consacrée, je n'avais pas de plan de vie du tout déjà tracé, mais pour moi l'amour de Dieu venait de prendre la première place dans ma vie, et je me suis dit comment est-ce que je vais chercher à en vivre. Alors c'est passé tout un temps dans le discernement avec un accompagnateur spirituel. Peu à peu ça s'est dirigé à ma grande surprise vers la vie consacrée. Mais alors, vous savez qu'on dit souvent que même Dieu ignore le nombre de formes de vie consacrée et de congrégations religieuses qui existent. Du coup, je ne savais pas trop comment faire. Et puis, je continuais mes études de lettres. J'étais pas très loin d'ici. J'étais étudiante à la Sorbonne, à Paris 4. Et je me rendais compte que c'était dans cette vie quotidienne que j'étais profondément heureuse. C'était vraiment quelque chose qui me marquait. Et je me disais, mais c'est là que je témoigne du Seigneur, je crois que c'est là qu'il m'appelle. Alors bon, je ne savais pas trop encore sous quelle forme ça pouvait exister. Et j'ai rencontré en même temps que cette prise de conscience que j'étais heureuse dans la vie ordinaire, la belle figure de Madeleine Delbrel, dont je crois que vous avez un petit peu entendu parler déjà ici. Pour moi, ça a vraiment été une sorte de confirmation en découvrant son témoignage. Et du coup, j'ai prévu quelques extraits de ses textes, un petit peu en parallèle de ce que je vais vous raconter. Parce que pour moi, elle est vraiment un exemple. Elle est vénérable depuis récemment, depuis quelques semaines. Et elle est vraiment un exemple de ce que je me sens appelée à vivre dans ce monde. Alors justement, quand je me cherchais, je me suis dit, en lisant un peu la vie de Madeleine Delbrel, elle ne cherchait pas à s'orienter dans une congrégation. Et elle cherchait tout simplement à être donnée au Seigneur 24 heures sur 24. Et ça m'a parlé complètement. Je la cite. « C'est le devoir d'État qui livre à la visitation de Dieu la petite parcelle d'humanité que nous sommes et qui nous établit dans une ordonnance d'amour. Faire son devoir d'État, c'est accepter de rester là où on est pour que le règne de Dieu vienne jusqu'à nous et s'étende sur cette terre où nous sommes. » Voilà, alors notre quotidien comme lieu de la visitation de Dieu, j'essaie d'y penser au quotidien, j'y arrive pas tout le temps, mais je trouve que c'est très beau, très fort, et ça donne du sens vraiment profondément à tout. Voilà, et puis il y a aussi un autre texte qui est très connu de sa part, qui dit justement ceci, je vais le lire. Il y a des lieux où souffle l'esprit, mais il y a un esprit qui souffle en tout lieu. Il y a des gens que Dieu prend et met à part, il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse et qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires. Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires, ce sont les gens de la vie ordinaire, les gens qu'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ils aiment leur porte qui s'ouvre sur la rue, comme leurs frères invisibles au monde aiment la porte qui s'est refermée définitivement sur eux. Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Alors voilà, la vie ordinaire, pour moi, ça a été donc la fin de mes études de lettres, où vraiment ça a été une confirmation pour moi, c'est là que je dois vivre. Et en même temps, mon accompagnateur spirituel, qui était un moine bénédictin de cette même abbaye, voilà, où j'avais vécu cette expérience spirituelle forte, m'a parlé de la possibilité d'être vierge consacrée. Donc une forme de vie consacrée hors congrégation, où on est tout simplement dans le lien avec un diocèse. Et c'est vrai que pour moi, c'était très fort ce lien diocésain également, puisque en devenant jeune adulte, c'était dans mon diocèse que je m'étais engagée dans les aumôneries, en donnant des coups de main en pastoral jeune adulte, enfin un petit peu partout. Mais vraiment ce lien, cet attachement spirituel avec mon diocèse, en réalité, c'était carrément ce que je vivais déjà et ce que j'avais profondément envie de continuer à vivre, et surtout là où je me sentais heureuse, quoi, parce qu'on ne fait pas ça pour être malheureux. Alors, c'était après, le discernement a continué, j'ai confié le discernement de ma vocation à l'Église, et puis il y a tout un chemin de formation, de discernement plus extérieur, jusqu'à l'appel de l'évêque à la consécration. Mais dans tous ces choix, il y a également eu ce choix de l'enseignement public. Alors ça, c'est un truc qui questionne en général. Très souvent, on me dit « Isabelle, mais attends, t'es pas dans le privé ?»« Non, je suis dans le public. » Et c'est pas toujours facile de faire comprendre qu'il n'y a pas un plus ou un moins. Il y en a certains qui vont dire « Ah oui, mais moi je jure que par le privé, c'est comme ça. » D'autres qui vont dire « Ah c'est super, quel courage de faire ce que tu fais. » Non, mais je crois qu'il faut arrêter d'essayer de faire une hiérarchie entre ceux qui vont s'orienter dans un cadre peut-être plus chrétien, mais qui a tout autant besoin d'être évangélisé, et un cadre public, effectivement, dans lequel on ne peut pas témoigner forcément explicitement du Seigneur, mais dans lequel qui a aussi à être évangélisé, quoi. Voilà, donc j'aime pas trop quand on oppose les deux. Pour moi, ça a vraiment correspondu à un appel profond. J'ai grandi aussi comme une élève de l'enseignement public. J'ai beaucoup reçu dans ce cadre-là. Et ça m'a semblé normal d'y exercer comme professeur. Voilà, et d'ailleurs, Madeleine Delbrel, là encore, le dit aussi, qu'il ne faut pas forcément choisir de vivre comme un juif des premiers siècles, enfin, elle le dit un peu comme ça, laisser son esprit modeler en nous le Christ de maintenant, le Jésus d'aujourd'hui. Le Jésus d'aujourd'hui soucieux bien moins de la lèpre ou des cas de possession que des maux d'aujourd'hui. Ne perdant pas son temps à reconstituer les conditions de vie du premier siècle, mais entrant de plein pied dans le rythme actuel, comme il était entré dans le rythme de la vie juive. Du coup, je ne mettrai pas d'opposition, je ne mettrai pas une recherche de vivre dans un milieu bien catho. Voilà, c'est tout, c'est du moment qu'on vit dans le monde d'aujourd'hui, peu importe, je dirais. Après, la question de l'éducation prioritaire. Alors, j'ai exercé, une fois que j'ai eu mon concours, on m'a envoyé en stage dans un lycée à Enghien, lycée Gustave Monod, un gros lycée, public très mélangé. Là, j'ai trouvé que c'était chouette. Je me suis dit, ah oui, c'est bien là, je me sens heureuse à enseigner, c'est top, je suis bien faite pour ce métier. Et puis, comme tout bon jeune prof, une fois cette année de stage finie, j'étais d'ailleurs au JMJ de Rio, au moment où j'ai découvert qu'on m'envoyait pour la rentrée à Argenteuil, dans un collège d'éducation prioritaire. Je vous l'avoue, pour parler vulgairement, j'ai un petit peu fait la gueule sur ce coup-là. Au JMJ, je me suis dit, oh la vache. Ça m'a quand même refroidi. Heureusement, justement, j'étais dans un cadre de prière. Et je me suis dit, si ça se trouve, c'est le Seigneur qui m'appelle là. Mais je me suis dit, est-ce que je vais résister? Enfin, j'avais entendu, comme vous tous, des trucs terribles sur les banlieues. Argenteuil, on en a tous entendu parler, je pense, comme un lieu où il y a des endroits un petit peu chauds, quoi. Voilà, ça fait partie des villes un petit peu chaudes de notre banlieue parisienne. Et puis, je m'y suis lancée. Alors, évidemment, c'est pas tous les jours simple. La première année, c'est un moment qui n'est pas évident, parce que faut faire sa sa place, il faut apprendre à se faire respecter. Il y a des choses qu'on n'a pas encore bien mises en place. Un an de stage, ça ne suffit pas à apprendre à se poser comme professeur par rapport à des élèves. Mais en même temps, ça s'est passé et la preuve, c'est qu'au bout d'un an, j'avais été nommée ce qu'on appelle TZR dans le jargon de l'éducation nationale, titulaire en zone de remplacement. J'ai demandé à être là-bas en poste fixe. Et maintenant, c'est donc la cinquième année que j'y suis. Au quotidien, voilà, je donnerai quelques exemples, c'est pas forcément donc, le moment où on s'amuse à fond tous les jours, où c'est très tranquille, où je peux faire n'importe quoi en cours, où je peux me relâcher et ne pas vérifier que tout se passe bien. Mais je crois que comme chrétien, c'est une vraie question à se poser, c'est aussi celle de l'option préférentielle pour les pauvres, qui appartient à la doctrine sociale de l'Église. Les jeunes qui me sont confiés, c'est des jeunes qui sont dans des situations en général d'une immense pauvreté. J'enseigne pas dans le collège le plus violent d'Argenteuil, mais dans celui qui, au niveau des catégories socio-professionnelles, a le taux le plus bas, au niveau des salaires, si les parents touchent un salaire d'ailleurs. Beaucoup sont dans des logements provisoires, beaucoup n'ont pas, ont des parents qui ne parlent pas français. Moi qui ai grandi dans le 92, à Bois-Colombes, bah, sincèrement, c'était un vrai déplacement pour moi à vivre. J'ai pas été habituée à vivre comme ça. J'étais certes dans le public, mais dans un établissement qui se tient bien, où il n'y avait pas tous ces problèmes. Et cette première année-là, j'ai découvert ce que c'était que côtoyer la misère. La première fois où je suis rentrée, j'ai été nommée professeure principale dès la première année, parce qu'il y avait besoin. Il y a beaucoup de turnover chez les professeurs dans ces zones-là, parce que bah, malheureusement, certains ne tiennent pas. Ça, c'est une réalité. J'admets que oui, la première remise de bulletin, le soir, je suis rentrée chez moi, ben, j'ai pleuré devant la misère que je venais de découvrir. Et puis je me suis dit, ben ouais, je crois que le Seigneur, c'est bien là qu'il m'envoie, effectivement. On a aussi à y être témoin de l'amour de Dieu, voilà. Donc je découvrais toute cette humanité, c'était pas simple, et je pense que j'ai pas fini de me convertir. Mais voilà, c'est un sacré déplacement, et je crois que Dieu les aime tout particulièrement, ces petits, ces pauvres qui nous sont donnés d'aimer. Donc justement, au fur et à mesure que j'étais en éducation prioritaire, bah, je continuais de cheminer vers la consécration. Comment ça s'est passé? Je me suis un petit peu demandé, au fur et à mesure, je me suis attachée à des collègues. Et dans les derniers temps, avant la consécration, on demande à ce qu'il y ait un certain nombre de témoignages sur nous, de personnes qui soient des témoins donc, et qui écrivent une lettre sur nous. Je me suis dit, cet enseignement en éducation prioritaire est un lieu de vie, un lieu où justement j'essaye de me donner comme je suis au Seigneur. Et c'est le moment où j'ai choisi d'en parler à deux de mes collègues, en leur demandant s'ils acceptaient, même s'ils étaient eux-mêmes athées, d'écrire une lettre sur moi. Alors ça a donné lieu à une... C'était pendant la vénération de la Sainte Tunique à Argenteuil, peut-être que certains vous y êtes allés. C'est avec ces deux collègues qu'on s'est retrouvés un soir, justement, pendant cette vénération. Ce collègue avait un appart à deux pas de la basilique. Et on a fait une soirée, on avait appelé ça FAQ vocation, foire aux questions vocation, avec un apéro où je devais répondre à toutes les questions qui se posaient. On est passé voir la Sainte Tunique aussi, ce qui prouve leur ouverture d'esprit. Et puis on a continué d'échanger. Ces deux collègues ont participé aux témoignages sur moi qui ont conduit à l'appel de l'évêque à la consécration. Tout ça pour dire aussi que on se fait aussi beaucoup d'idées sur le côté anticlérical des profs de l'enseignement public, souvent anti-religieux, c'est assez vrai, hein. Voilà, ces deux-là ne sont pas forcément des grands amis de l'Église. Et en même temps, on peut, en apprenant à côtoyer les gens, à partager des choses ensemble, et notamment justement, je pense, dans le service des plus pauvres, par ce lien commun d'humanité, ben, on peut réussir à échanger des choses et à dire ce qui habite le plus profond de notre cœur. Voilà, donc... pour moi, ça m'a beaucoup touchée, les deux témoignages qu'ils ont pu écrire sur moi et le fait qu'ils acceptent. Ils ont dit, ben, finalement, on est un peu comme tes témoins de mariage. J'ai trouvé ça assez beau. Voilà. Et jusqu'à ma consécration, j'en ai pas parlé à tout le monde, mais on est 35 collègues dans l'établissement et j'avais invité un peu plus de 10 de mes collègues à ma consécration, dont ma principale adjointe et mon ancien principal. Donc c'est pour vous dire que c'était quand même assez connu dans l'établissement, et puis depuis certains le savent, on l'ont appris, d'autres ne sont pas au courant, mais savent que je suis catho à fond. Alors du coup, ce qui est assez beau dans tout ça, c'est que les collègues finalement me respectent énormément mon choix, parce que justement, ils voient bien que j'essaie de faire comme eux, qu'on est confrontés aux mêmes soucis, aux mêmes joies, Et au lieu d'être là en train de dire « Oh là là, toi t'es bien dans ton monde, t'es complètement enfermé », au contraire, il me voit un petit peu comme une présence d'église qui les côtoie au quotidien. Et ce qui est très beau, c'est aussi de voir des collègues, parfois agnostiques, parfois en recherche, qui viennent me confier leurs difficultés, quand on est deux en salle des profs, qui viennent me demander même de prier pour eux, pour certains. L'année dernière, par exemple, j'ai eu la joie d'accompagner le pèlerinage des mères de famille à Vézelay. Je me rappellerai vraiment, je pense quasiment toujours, d'une de mes collègues qui avait de gros soucis dans son couple, qui m'avait dit « Isabelle, je crois pas, mais toi t'y crois, alors je te demande de marcher et de prier pour moi. » Voilà. Donc il y a des belles choses qui se passent, des moments de lumière. Mais comment justement côtoyer aussi, conjuguer, on va dire, plutôt cette vie consacrée et cette vie de tous les jours assez trépidante, parce que voilà, je ménage pas mon temps, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Je pense que l'essentiel, encore une fois, c'est pas forcément ce que je fais. C'est plutôt ce que je suis ou ce que je m'efforce d'être. Et surtout, ce que Dieu est. Pour ça, pour moi, il y a quelque chose qui est essentiel dans ma vie, c'est la place de la prière. Franchement, je pense que sans la prière, je suis fichue. Non pas que je ne serais peut-être pas capable de faire court sans, mais sinon, ma vie, elle n'a vraiment pas de sens. Pour moi, c'est le point central de mes journées. Alors, il y a la prière que l'Église nous confie. Je prie les laudes, les vêpres et les complies tous les jours. Depuis ma consécration, et puis il y a surtout la relation personnelle avec Dieu dans l'oraison. Sans prendre un bon temps d'oraison tous les jours, 30 minutes au moins de prière silencieuse, je pense que je ne serais pas capable d'aimer ces pires que galopins que j'ai au quotidien auprès de moi. Et j'aime bien aussi me rappeler, là encore, de ce que disait Marie-Hélène Delbrel. Alors, il y a une des phrases que j'avais suggérée justement sur l'affiche de ce soir, à rajouter sur le tableau. Un plan large d'action pour aller décider à réagir si on leur montrait, ça c'était parce qu'elle parlait des communistes, que toute action doit être exactement proportionnée à notre intensité de vie profonde. Alors de ça, j'en suis loin, mais pour moi, ça montre vraiment l'importance de la vie de prière pour exercer comme professeur. Et puis il y a aussi ce beau texte, « Venez, suivez-moi ». C'est une marque très nette de la vocation à la charité. La charité, c'était le petit groupe que Madeleine Delbrel avait constitué autour d'elle. Pas de spécialisation, pas de rôle défini à jouer, soins, enseignement. Nous sommes appelés à suivre le Seigneur. C'est toujours une tentation de chercher des choses à faire pour Dieu. C'est quelqu'un qui appelle, le Christ, c'est quelqu'un. Il s'agit moins de travailler pour le Christ que de vivre le Christ. C'est la ligne première de la charité. Chaque fois qu'on a voulu définir les activités du groupe, on a fait fausse route. C'est la vocation la plus dépouillée, je veux que vous soyez avec moi. Et il appela ses apôtres. Dans la suite, ils eurent à faire, mais ils furent appelés d'abord pour qu'ils soient avec lui. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et d'ailleurs, comme petite phrase que j'avais mise sur mes images de consécration, j'avais mis la phrase issue de la prière eucharistique numéro 4, « Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui, qui est mort et ressuscité pour nous. » Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est vraiment impossible d'aimer autrement. Alors donc, il y a cette prière-là, et puis dans la journée, sincèrement, parfois, oui, si je m'écoutais, j'aurais envie de coller des grosses baffes à certains de mes étreintes, parce qu'on est en respectement humain, et quand il y en a qui manquent sincèrement de respect, qu'on vient de répéter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois la même chose, et qu'on nous demande une énième fois la même, pour nous poser la même question, oui, on pourrait quelque peu s'énerver. Pour ma part, j'ai instauré des petits appels à l'Esprit Saint quand vraiment je commençais à sentir que ça me montait au nez la moutarde de manière plus que puissante. En disant « Esprit Saint, s'il te plaît, donne-moi l'esprit de sagesse » ou pareil, quand je fais face à une situation compliquée par rapport à un élève, « Esprit de conseil, viens ». Voilà, pour moi, c'est des petits riens, mais c'est des petits moments de prière qui m'aident aussi à vivre au quotidien. Et puis, j'aime bien aussi parfois me rappeler de Don Camillo qui demande au Seigneur qui veut en coller une et « Seigneur, les mains sont faites pour bénir, mais les pieds, voilà. » Bon, ça, c'est mon petit côté amusant. Mais c'est vraiment important. Alors, est-ce que ça change quelque chose d'être consacré pour enseigner? J'en sais rien, sincèrement. Je ne sais pas. Mes compétences disciplinaires, je les ai acquises auparavant. Est-ce que ça change grand-chose? J'en sais rien. Mais en tout cas, je m'efforce vraiment d'aimer. Et je crois que Dieu m'envoie là, en tout cas actuellement. Je ne pense pas qu'on puisse y vivre toute sa vie dans une zone d'éducation prioritaire, parce que ça demande une énergie folle de tenir une classe de 25 élèves, en général très compliqué, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est ma place. Et peut-être qu'ils ne se rendent compte de rien, mais moi, il y a 2 ans, il y a une de mes élèves qui m'a dit un truc assez surprenant, qui m'a dit, « Madame, enfin je l'ai en troisième aujourd'hui, non c'était donc il y a 3 ans, je l'avais en sixième. Et elle me dit, madame, mais vous n'êtes pas mariée. Je fais, non, je suis pas mariée. Madame, vous avez des enfants. Non, j'ai pas d'enfants. Ah, je comprends pourquoi vous nous aimez autant. Voilà. Bon, je me dis que la petite Léa, elle avait quand même compris quelque chose du célibat consacré sans savoir. Voilà. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça auxquelles je me dis, bon, bah, voilà. On est là, on fait ce qu'on peut, on s'efforce d'aimer, tout simplement. Alors, évidemment, pour vivre tout ça, c'est vraiment un combat, la prière, de réussir à garder ce temps tous les jours. Mais je crois que c'est vraiment essentiel. Et de la même manière, témoigner auprès des élèves en vivant, puisque eux, je ne peux pas leur parler de Dieu. Et puis, en témoigner parfois explicitement auprès de mes collègues, donc dans quelques cas, comme je viens de le dire. Il y a aussi un combat d'une certaine pauvreté à mener. Nous, les vierges consacrées, on ne prononce pas de vœux, mais les trois dimensions des vœux sont aussi à vivre au quotidien. Et la pauvreté, pour moi, c'est que tout simplement, bah, parfois, je ne peux pas vivre ma vie de prière, ma vie de catholique, comme je l'aimerais. Un exemple très récent, le mercredi décembre, j'accompagnais un voyage scolaire en Espagne. Ça a été un des pires moments que j'ai passé dans cet établissement depuis 5 ans. On a eu des élèves absolument, enfin en tout cas, 3 d'entre eux, des gros meneurs, et qui ont constitué un groupe de 48 élèves vraiment imbuvable, très difficile à gérer, des crachats partout, des débuts de bagarre avec des Espagnols, des vols. Enfin voilà, je vous fais pas un dessin, c'était pas simple. Et voilà, c'est posé la question au cœur de cette semaine, il y a le mercredi décembre, je fais comment? Alors ce que j'aime bien, c'est qu'avant de partir, la secrétaire de paroissiale me dit « Mais Isabelle, mais quand on veut, on peut !» Oui, c'est sûr, quand on les a depuis 8h à plus de 21h le soir dans un pays étranger, c'est facile d'aller à la messe. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé à un ami prêtre de me donner la communion avant de partir, puisque je partais le samedi, je revenais que le vendredi soir suivant, donc pas de messe de semaine. Le mercredi décembre, je m'étais dit, si, peut-être, on sait jamais, je rentre à un moment dans une visite d'église et qu'il y a la messe décembre, ben tant mieux. Et finalement, non, ça a été, je crois, la journée où il s'est passé le plus de soucis. Au début, j'avais même prévu de jeûner. Je me suis dit, là, c'est pas possible de jeûner, j'aurais jamais assez d'énergie pour gérer mes élèves. Donc, j'ai pas jeûné, j'ai pas été à la messe, donc la grosse loose sur le plan catholique. En même temps, voilà, au réveil, j'ai prié les laudes, et puis au fur et à mesure de la journée, j'ai prié. J'ai vraiment essayé de prier pour être témoin de la charité et de l'amour de Dieu auprès de mes élèves. Alors, ça a été un début de carême marqué par une grande pauvreté, parce que c'est sûr que j'aurais aimé être tranquillement posée dans ma paroisse, que j'aurais aimé suivre ce que demande l'Église en jeûnant. Et puis finalement, c'est autre chose qui s'est présentée. Donc, vous parliez d'obéissance tout à l'heure dans votre homélie. Et je crois que là, l'obéissance, c'était l'obéissance aux circonstances de la vie. Et c'était tout simplement d'essayer d'aimer dans ce qui m'était donné de vivre ce jour-là. Voilà. Et souvent, ça peut être comme ça quand, bah, même hier, jour de la Saint-Joseph, j'avais prévu d'aller à la messe de 19h. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un conseil de discipline. Et bah, j'avais encore à être là comme représentante de mes collègues. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça change? Là encore, je répète, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une vraie joie aussi de semer. Et là aussi, à nouveau, la pauvreté, parce qu'on ne voit pas forcément les fruits de ce qu'on sème au quotidien. Mais ça, c'est valable pour tous les professeurs, qu'on soit consacré ou pas. On essaie de donner, on essaie de faire grandir les élèves qui nous sont confiés. Et puis, parfois, on voit des petits changements, des petits moments qui nous donnent de l'espoir. Mais parfois, on ne voit rien. Alors, à quoi ça sert? On peut dire que ça sert à rien, on peut dire que ça sert à rendre heureux nos élèves, que ça sert à nous rendre heureux nous-mêmes. Mais moi, je crois que le principal dans tout ça, c'est une vraie invitation à vivre dans l'espérance. L'espérance que, bah justement, ce qu'on sème, c'est pas perdu et qu'on essaie de semer selon le cœur de Dieu, non pas forcément selon ce que nous, on aurait souhaité, mais au mieux comme lui le voudrait.